Merci de rester à l'écoute de RFI, les midis à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. À la une de ce journal, la guerre commerciale lancée par Donald Trump se poursuit. Alors que les bourses européennes tentaient un rebond à l'ouverture, les tensions entre Pékin et Washington continuent sur les droits de douane. L'Union européenne appelle à éviter l'escalade. Les États-Unis et l'Iran en discussion directe sur le nucléaire. Le président américain l'a annoncé hier. Téhéran parle, elle, de discussions indirectes qui auront lieu ce samedi à Oman. Les détails dans un instant. Au Proche-Orient, alors que la défense civile de Gaza annonce 19 morts dans des frappes israéliennes depuis hier soir, l'armée israélienne a promis de mener une enquête concernant la mort de 14 secouristes palestiniens et d'un employé de l'ONU à Gaza. Et puis en France, dernier jour du procès des soupçons de financement libyen, la parole est à la défense de Nicolas Sarkozy. Avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, nous serons en direct du tribunal avec notre envoyé spécial. Après un lundi noir sur les marchés, suite aux droits de douane imposés par Donald Trump, la confrontation entre Pékin et Washington s'intensifie. La Chine combattra le chantage des États-Unis, c'est ce qu'a déclaré le ministère chinois du Commerce. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé ce mardi à éviter l'escalade lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois. La bourse de New York, elle, a limité ses pertes lundi, finissant en ordre dispersé à l'issue d'une séance en dents de scie, un recul toutefois moins prononcé que celui des autres places boursières. Les investisseurs sont très nerveux, ils anticipent de lourdes pertes économiques et le retour de la récession. Bruno Coleman est économiste et professeur d'économie à l'Université libre de Bruxelles. Selon lui, les marchés vont s'apaiser à mesure que les négociations vont débuter entre les pays touchés par ces droits de douane et la Maison Blanche.
On peut toujours craindre un crack, mais je crois que les bourses vont encore un peu baisser, mais on ne doit pas assister à des chutes spectaculaires. Vous savez, le principe d'une bourse, c'est qu'elle anticipe des mouvements futurs, et donc elle anticipe en quelques jours des mouvements qu'elle voit à moyen ou à long terme. Ce qui veut dire que quand une bourse chute beaucoup, il n'y a pas de raison qu'elle continue à chuter jour après jour. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette chute boursière est liée à un fait politique, c'est-à-dire des barrières douanières et tarifaires qui sont imposées par Trump, et qu'il suffirait que ces barrières soient en partie levées ou fasse l'objet d'une négociation avec les partenaires économiques pour que tout d'un coup les marchés financiers reprennent confiance. Et je pense que l'aboutissement, ce sera un grand accord monétaire qui visera en fait à déprécier le dollar par rapport aux autres devises. Et ça fait l'objet des plans monétaires de Trump qui sont quasiment publics. Donc je crois qu'on est dans une période temporaire et qu'il ne faut pas céder justement à la panique parce que l'étape finale n'est pas encore atteinte.
Bruno Coleman, économiste et professeur d'économie à l'Université libre de Bruxelles. Des propos recueillis par Anne Verdaguer. Les États-Unis qui sont en discussion directe avec Téhéran sur le nucléaire, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump hier, au moment où il recevait le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est reparti sans les concessions commerciales qu'il espérait obtenir. Nous avons des discussions directes avec l'Iran, elles ont commencé, elles se poursuivront samedi. Nous aurons une très grande réunion, a déclaré à la presse le président américain. L'Iran a confirmé en mentionnant des discussions de haut niveau, mais indirectes, qui auront lieu ce samedi à Oman. Déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères qui précise que la balle est dans le camp de l'Amérique, à Téhéran, la correspondance de Siavosh Ghazi.
Abbas Araghchi a affirmé que la rencontre au plus haut niveau aura lieu samedi à Oman, mais de manière indirecte. Selon certains médias iraniens, le ministre des Affaires étrangères pourrait se rendre personnellement à Oman pour diriger les négociations. Parallèlement à cette discussion avec les États-Unis, une rencontre doit avoir lieu aujourd'hui même à Moscou avec la Chine et la Russie qui avaient participé à l'accord de 2015. De même, une autre rencontre est prévue avec les Européens. Toute la question est de savoir quelles seront les demandes américaines. Est-ce que Washington va demander l'arrêt des programmes nucléaires mais aussi balistiques de Téhéran? Dans ce cas, l'Iran a déjà fait savoir qu'il n'acceptera pas de telles exigences. C'est en tout cas ce qu'a demandé le Premier ministre israélien en citant l'exemple libyen en 2003. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment en envoyant une dizaine de bombardiers B-2 capables de détruire les installations nucléaires iraniennes enfouies sous la montagne. De même, le président Trump a multiplié les sanctions contre l'Iran, depuis son arrivée au pouvoir, ce qui rend difficile les nouvelles négociations. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Au-delà du nucléaire iranien, l'autre dossier international que suit avec attention Washington, c'est la guerre en Ukraine. Au moment où les pourparlers lancés par les États-Unis peinent à aboutir à des résultats concrets, la Russie dit régler des questions avant toute trêve globale avec Kiev. Hier, lors de son déplacement au Caire, le président français Emmanuel Macron a pour sa part accusé Moscou de faire traîner les discussions et demandé d'accepter le cessez-le-feu sans condition proposé en mars dernier par son homologue américain Donald Trump. Le président français est donc en Égypte depuis hier, après des déclarations sur Gaza à l'occasion d'un sommet trilatéral avec son homologue égyptien Fatah al-Sissi et avec le roi de Jordanie Abdallah II. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est attendu à un avant-poste égyptien du soutien humanitaire à Gaza pour appeler à une reprise de l'aide bloquée par Israël, qui a repris ses opérations militaires contre l'enclave palestinienne après 2 mois de trêve en mars dernier. Par ailleurs, depuis lundi soir à Gaza, la défense civile du territoire palestinien annonce 19 morts dans des frappe israélienne. Une affaire continue également de faire grand bruit, celle de la découverte des corps de 14 secouristes palestiniens et d'un employé de l'ONU dans une fosse commune à Gaza la semaine passée. Hier, l'armée israélienne a promis de mener une enquête approfondie sur les faits du dimanche 23 mars. Une déclaration qui a suivi de quelques heures une conférence de presse du Croissant Rouge à Ramallah et à laquelle Amira Souilem a assisté.
C'est un affrontement qui se fait par communiqué interposé. Le Croissant Rouge palestinien et l'armée israélienne s'interpellent et se répondent depuis plusieurs jours de façon indirecte. Depuis qu'il a trouvé sur le téléphone d'un des secouristes tués une vidéo documentant les dernières minutes de vie de ses équipes médicales, le Croissant Rouge palestinien entend mettre Israël face à ses contradictions et sa responsabilité. Très largement relayée dans les médias internationaux et les réseaux sociaux, cette vidéo montre des ambulances palestiniennes avançant à allure régulière et feux allumés sur des routes de Gaza. De quoi fragiliser la défense de l'armée israélienne, qui avait dit avoir tiré après avoir aperçu des mouvements suspects des véhicules, évoluant, tout feu éteint. Lors d'une nouvelle conférence de presse, hier, lundi, à Ramallah, le Croissant Rouge a donné à voir aux journalistes une version plus longue de la vidéo. L'organisation palestinienne soutient que les humanitaires ont été visés principalement dans le haut du corps, preuve qu'il y avait volonté de tuer, selon elle. Aussitôt, par communiqué, Israël a promis une enquête approfondie du dossier. Le New York Times, pendant ce temps, révélait que sur 573 cas présumés de crimes de guerre commis à Gaza et sur lesquels l'armée israélienne enquêtait, un seul avait débouché sur des poursuites judiciaires. Amira Souilem, Ramallah, RFI.
Et en Israël, l'audience de la Cour suprême sur le limogeage du chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, a repris aujourd'hui et sans public, après avoir été brièvement suspendue. En cause des altercations et invectives dans la salle, l'audience est consacrée à l'examen des recours déposés contre la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahou de limoger le chef de l'agence de la sécurité intérieure, Ronen Bar. RFI, il est 12h07 à Paris, ce mardi 8 avril, c'est le dernier jour du procès des soupçons de financement libyen de la campagne de 2007. La parole est à la défense de Nicolas Sarkozy. C'est donc l'épilogue d'un procès inédit dans lequel comparaissent depuis le 6 janvier l'ex-président de la République ainsi que 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres. Laura Martel, bonjour.
Bonjour.
Contre l'ex-chef d'État poursuivi pour plusieurs délits, dont l'association de malfaiteurs qui lui fait encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, le parquet a requis 7 ans de prison, 300 000 euros et 5 ans d'inéligibilité.
C'est évidemment la relaxe que vont plaider les 4 avocats de Nicolas Sarkozy durant quelques 5 heures, nous dit-on. Au terme de 3 mois de débat, de lecture du dossier s'oppose radicalement. Si le parquet a requis la peine sévère de 7 ans de prison, c'est qu'il en est convaincu. Pour satisfaire ses ambitions politiques dévorantes, Nicolas Sarkozy a noué un pacte faustien avec un dictateur sandinaire pour financer sa campagne. Il est le véritable commanditaire de ce pacte de corruption mis en œuvre par ses plus proches qui ont agi comme des hommes de main et ont protégé leur chef jusque dans la salle d'audience, les ex-ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux en tête. Et même si l'accusation reconnaît ne pas avoir pu retracer l'intégralité des flux financiers, comme c'est souvent le cas dans les affaires de corruption, pointe-t-elle, le faisceau d'indices est pour elle accablant face à des dénégations de prévenus qui ont parfois frôlé l'absurde. Nicolas Sarkozy, lui, n'a cessé de clamer son innocence et dénoncer une enquête à charge basée sur les accusations de Libyens qui voulaient se venger de lui pour avoir mené l'intervention de la coalition qui a abouti à la mort de Kadhafi. Il n'y a pas de preuves parce qu'il n'y a pas eu d'argent libyen dans la campagne, martèle depuis des mois la défense. Après, à l'issue des plaidoiries, les prévenus pourront donc dire un dernier mot avant donc la mise en délibéré du jugement, un jugement qui ne devrait pas être rendu avant plusieurs mois.
Les précisions de Laura Martel en direct du tribunal correctionnel de Paris. RFI, il est midi 10 à Paris. Dans un instant, c'est 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.